Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Patience Ngalula Mbombo.
Au sommaire de cette édition d'information, après plusieurs mois d'accalmie, les affrontements reprennent mercredi entre l'armée et la milice Mobondo dans les territoires de Kwamout, province du Maïndombé. Cela s'est passé à moins d'un kilomètre du village Kinsele, situé à la limite entre les provinces du Maïndombé et de Kinshasa. Les gouvernements congolais appellent la communauté internationale à prendre des mesures sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants, dont les troupes opérant en RDC ciblent aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO. C'est en réaction au rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC en mai 2024. L'invité de ce journal est Bruno Lemarquis, chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC. Après sa visite jeudi dans différents sites des déplacés dans la commune rurale d'Oicha, au nord Kivu, il dit poursuivre les plaidoyers en faveur des personnes déplacées pour l'amélioration des conditions de leur vie. Bonjour à toutes et à tous. Les phénomènes Mobondo au territoire de Kwamout, dans la province du Maïndombé, on en parle encore. Des violents affrontements y ont opposé mercredi l'armée et la dite milice qui a été pourchassée. Cela s'est passé à Au Revoir Maluku, village situé non loin de Kinsele, précisément à la limite entre les provinces de Maïndombé et de Kinshasa. Des tirs d'armes ont retenti dès l'après-midi jusque dans la soirée, indique le député provincial élu de Kwamout, David Bissé. Saka qui nous livre l'information. Les points avec Irène Bomaluzolo.
Ces affrontements interviennent après plusieurs mois d'accalmie. Les sources locales indiquent que les miliciens Mobondo ont tenté d'attaquer mercredi la base des forces armées de la République à moins d'un kilomètre du village Kinsele. Et ces vaillants soldats ont mis en déroute les assaillants, situation qui a créé la psychose totale au sein de la population qui ne sait quelle direction emprunter pour se mettre à l'abri, indique le député provincial David Bissaka, élu de Kwamout.
À Kinsele, les Mobondo avaient attaqué la position des militaires Au Revoir Maluku, la rivière Douami qui sépare Kinshasa et la province du Maïndombé. Les militaires de Kinsele ont réagi activement. Ils ont repoussé les Mobondo jusqu'à leur dernière demeure, mais la population traumatisée. La psychose généralisée, il y a ceux qui plairent, il y a ceux qui veulent quitter les lieux, mais ils ne savent pas par quelle direction commencer leur voyage.
D'après les sources de la société civile locale, plusieurs villages situés le long de la RN17, précisément sur l'axe Kwamout-Massiambio et sur le long de la voie fluviale, continuent d'être occupés par ces hommes armés. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
À Kinshasa, les corps sans vie d'un chauffeur de taxi vient d'être découvert ce matin devant la direction du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, non loin de l'ambassade des États-Unis. C'est le troisième cas dans la commune de la Gombe en une semaine. Étienne Lissoumbou.
Comme les deux précédentes victimes, celle de ces vendredis avait également les mains et les pieds liés, mais aussi cette fois la bouche bâillonnée. Après constat de la police scientifique, le corps a rejoint les deux autres à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. L'association des chauffeurs du Congo ASECO dit avoir demandé et obtenu avec d'autres associations du domaine d'être reçu demain samedi par le commissaire provincial de la police de Kinshasa pour ensemble trouver des solutions à cette insécurité qui met à mal leur profession. Ceci porte à 6 le nombre de personnes tuées depuis le jeudi dernier dans la ville province de Kinshasa. Outre ces conducteurs, un magistrat, un agent des services de sécurité et un motard ont eux été abattus par des bandits armés, respectivement Antsele, Mongafula et Ngaliema.
Les gouvernements congolais appellent la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants dont les troupes opérant en RDC ciblent aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO. Ces faits, note-t-il, sont constitutifs des crimes de guerre. Dans un communiqué publié hier jeudi, le ministre de la Communication et des Médias réagit ainsi après avoir dit-il, pris connaissance du récent rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC transmis au président du Conseil de sécurité en date du 31 mai 2024. Ces rapports, écrits les porte-parole du gouvernement, présentent des preuves accablantes et indiscutables de l'agression de la RDC par les Rwandais. Les condensés de la réaction de la RDC avec vous, Alain Irung.
Le rapport des experts des Nations Unies affirme, souligne Patrick Muyaya, que le Rwanda utilise près de 4000 militaires, nombre largement supérieur à celui des terroristes du M23, comptant aussi des enfants mineurs et des personnes recrutées notamment de force dans les localités sous occupation et dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. En outre, le ministre de la Communication et des Médias dit que le gouvernement congolais prend acte des informations faisant état des cas de rapprochement circonstanciel à des niveaux non politiques ni stratégiques, de certains agents publics avec des groupements non étatiques sous sanction des Nations Unies et qui endeuillent principalement des populations congolaises. Il se félicite de ce que les experts reconnaissent l'existence des directives et sanctions prises par les autorités congolaises pour décourager ce genre d'incident et reste engagé à exploiter ces informations en vue d'en dégager d'éventuelles responsabilités. Enfin, le gouvernement de la RDC rappelle que toutes les fois que des graves soupçons des crimes et d'autres actes illégaux ont pesé sur des agents publics impliqués dans cette crise, il s'est toujours assuré que les présumés auteurs en répondent devant des juridictions compétentes.
Merci Alain. Au Nord Kivu, l'organisation Veille humanitaire des Bouito lance un appel pressant en faveur d'une assistance aux milliers de familles retournées dans la zone autour des Kanyabayonga. C'est à cheval entre la partie sud du territoire de Lubero et nord de Rutshuru. Les coordonnateurs de cette structure locale disent avoir monitoré entre le 1er et le 10 juillet dernier environ 1000 ménages des déplacés qui sont déjà rentrés dans différents villages et cités de la zone. Sa crainte est de voir les délais des 2 semaines de trêve recommandés par les États-Unis d'Amérique n'est pas être respecté. Cela ne rassure pas les ONG humanitaires pour la reprise de leurs interventions dans la zone. Écoutons à ces propos Paris Mastaki, joint par Bernard Nyangi.
C'était à partir du 29 au 30 juillet 2024, par la VASE du M23, que la population des Bouito, du récit de Lubero, ont pris la décision de retourner dans leurs villages respectifs. C'était sûr qu'à partir du 1er jusqu'au 10 juillet, nous avons fait le monitoring dans la zone de santé de Kibirizi, Lusoa, Birundule, Talongola et Kanyabayonga, c'est promis. Nous avons monitoré plus de 34 000 ménages qui rentrent dans leurs villages respectifs. Et dans les communes de Kanyabayonga, nous avons enregistré plus de 9 500. Ces ménages vivent dans des conditions inhumaines. Leurs articles ménagers essentiels ont été perdus. D'autres, leurs maisons ont été détruites par des bombes. Ils ne sont pas encore autorisés d'aller cultiver très loin du village. Jusqu'à présent, les acteurs humanitaires n'arrivent pas. Ils disent que la trêve humanitaire qui a été annoncée par les États-Unis, la période est minime. Alors cette population manque quoi faire jusqu'à présent.
Nord Kivu toujours, c'est un vite. C'est en adoptant le principe déontologique patriotique que nous allons vaincre l'ennemi et mettre fin à la guerre au Nord Kivu. C'est la recommandation du Conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru à la population en général et à la jeunesse notamment. Ceci dans le cadre de la campagne de sensibilisation qui mène cette structure de la jeunesse. Pour le président de cette structure, si tout le monde adoptait le principe patriotique, c'est de cette manière que la population pourrait se libérer des mains de l'ennemi. Au micro de Denise Loukesso, patient tuiséré, évoque ces quelques principes à adopter.
Non au discours de haine, non à la stigmatisation, non à la désinformation, non aux intox, non au tribalisme, non au recrutement forcé des mineurs et de jeunes dans les forces négatives, non au pillage de nos ressources naturelles par les Rwanda et l'Ouganda, non à la trahison de la RDC, notre beau cher pays. Oui, soutien total aux FRDC et aux vrais Ouazalen. Oui, à l'éveil patriotique, c'est-à-dire la patrie ou la mort. Oui, au zéro traite. Oui, à l'adhésion au programme du PDDRCS. Si tout le monde appliquait ces principes, le Rwanda, l'Ouganda n'aura pas de place en RDC. Mais également, avec ces principes, il y aura un changement positif au sein de la population. Et avec ces principes, ça sera facile de mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui nous agresse, qui est le Rwanda et l'Ouganda. C'est pourquoi nous avons pensé à ça, pour sensibiliser notre population, d'adopter ces principes pour qu'il y ait un changement au sein de la population. Mais également, nous voulons rappeler à chaque Congolais d'être patriote. C'est pourquoi nous avons énuméré les quelques principes, notamment...
En Ituri, l'activisme des groupes armés affecte les bons fonctionnements des lieux des cultes dans plusieurs entités de la province. Selon les statistiques produites ce vendredi par les conseils des confessions religieuses de l'Ituri, une centaine d'infrastructures religieuses ont été détruites, incendiées ou saccagées par des miliciens depuis décembre 2017 dans les territoires de Djougou, Irumu, Haru et Mambasa. Cette structure plaide pour la restauration de l'autorité de l'État dans ces entités. Martial Kizabiamungu.
Presque toutes les confessions religieuses, catholiques, protestantes, musulmanes et de réveil sont affectées par les atrocités des groupes armés à l'Ituri. La communauté musulmane est la plus touchée avec 25 mosquées détruites ou incendiées, sans compter les écoles et 5 imams tués. Elle est suivie par la communauté Emmanuel 39 avec 22 chapelles détruites. Selon les conseils des confessions religieuses, 7 paroisses du diocèse de Montbleu et une dizaine de la CEPAC ne sont pas opérationnels. Cette structure indique que les assaillants ont également détruit plusieurs infrastructures de l'église catholique à Fataki, Lita et Drodro et des stations missionnaires de l'église Kimbanguste dans les territoires de Djougou. Le pasteur Ignace Bingui, président du CCRI, plaide pour le retour de la paix à Ituri et l'appui du gouvernement pour la reconstruction de ces infrastructures.
Puisse aussi prêter une attention à tout ce qui est comme infrastructure sociale.
Plusieurs écoles de différentes confessions religieuses sont également fermées à la suite de l'insécurité et tous les élèves et les fidèles en déplacement. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la commission Paix, Vérité, Justice et Réconciliation CPJVR demande le renouvellement de son mandat pour 3 ans par l'Assemblée provinciale. À en croire son rapporteur, ses plaidoyers a été formulé après les 3 ans contenus dans les 10 instituant cette commission par l'organe délibérant. Maître Dominique Kambala explique que le CPVJR a connu du retard par rapport à son opérationnalisation, j'y arrive, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la région du Kasaï lors des événements des Kamouinansapou. Maître Dominique Kambala est au micro de François Kadima.
Entre le 21 juin et le 22 août 2022, il s'est écoulé presque une année sans que les commissaires ne soient investis. Il a fallu attendre l'avènement du gouvernement John Kabeya pour que finalement les commissaires sont investis. La commission a commencé le processus de son opérationnalisation au mois d'août. La commission devait construire ses matériaux en termes d'outils, de stratégie. Nous avons dû travailler pendant encore une autre année. Au-delà de ça, la commission avait un problème en termes d'un siège. La reconduction du mandat, elle doit se justifier de droit. Du fait que, indépendamment de notre propre volonté de mieux faire, pour faire la lumière sur la vérité en ce qui concerne les crimes graves commis dans la région du Kasaï, que nous puissions avoir une rallonge qui permet à ce que nous puissions terminer totalement ce travail afin que plus jamais ça.
Dans la province du Kwilu, la banque Tembe, agence de Bandunduville, est scellée depuis 3 jours par la Direction générale de recettes administratives domaniale et des participations de Gérald Grand Bandundu. En cause, cette banque est accusée de ne pas être en ordre avec les taxes à payer à la DGRAD, situation qui met à mal la paye des fonctionnaires de l'État. Les points avec Irène Bomaluzolo.
C'est depuis mardi 9 juillet 2024 que toutes les portes de la banque Tembe, agence de Bandundu, sont hermétiquement fermées par la direction générale de la DGRAD Kwilu. Jean-Louis Tombolo est le directeur général AI de la DGRAD. Il explique la raison de cette action menée par son service.
C'était dans les prérogatives légales de la DGRAD de poursuivre un assujetti, donc c'est-à-dire que toute personne qui n'a pas payé ses taxes, et de procéder soit à la saisie des biens, on peut saisir les comptes, ou soit on peut fermer provisoirement les installations. C'est comme le cas échéant que nous avons fait. Je pense que dans les heures qui suivent, il y aura une suite favorable pourvu que la TMB manifeste la bonne volonté.
Préoccupé par cette situation, le ministre provincial en charge des finances du Kwilu a réuni jeudi dans son cabinet de travail les 2 parties afin de trouver une solution idoine pour que cette banque puisse poursuivre ses opérations de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Papi Mitete.
Nous avons appelé les deux parties et nous nous sommes convenus et la TMB a pris ses engagements et tout est en ordre.
Signalons que cette nouvelle inquiète plusieurs habitants de la ville de Bandundu, car la TMB est la banque phare qui s'occupe de la paye des fonctionnaires. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les autorités maliennes de transition ont levé ce mercredi 10 juillet la suspension des activités politiques des partis et associations qui avaient été imposées en avril dernier. Or, c'est parce qu'ils avaient osé se réunir alors que ces décrets l'interdisaient que 11 cadres des partis politiques maliens ont été arrêtés le 20 juin dernier.
L'invité.
Notre invité est le chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC. Bruno Lemarquis a effectué jeudi une visite dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au Nord Kivu, pour évaluer la situation des milliers de déplacés dans la zone. Il annonce que les Nations Unies vont poursuivre avec les plaidoyers pour une amélioration des conditions des déplacés en attendant leur retour dans les milieux d'origine. Bruno Lemarquis s'entretient à ce sujet avec Sadiki Aboubakar.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Cette zone qu'on considère comme déversoir des déplacés dans le Grand Nord Kivu. Quelle est la situation humanitaire dans cette zone?
Alors, comme vous l'avez dit, on est en visite aujourd'hui sur la commune de Oicha. On a eu des très bonnes discussions toute la matinée avec des déplacés pendulaires. Ils s'appellent eux-mêmes les déplacés pendulaires puisque certaines personnes, on va, on vient en fonction de l'insécurité et des actes des groupes armés. On a visité des projets avec les partenaires, des Nations Unies, des ONG internationales, des ONG nationales. On nous a expliqué avec la solidarité qui existe au Congo, 70% des déplacés à Oicha vivent dans les familles d'accueil où elles sont bien reçues. Donc c'est juste la minorité d'entre elles qui vivent dans les sites de déplacés. Bien sûr, les conversations qu'on a eues avec ce matin demandent toujours la même chose. Partout au Congo, on demande toujours la même chose. Le retour de la sécurité, le retour de la paix et notamment les peuples autochtones sont vraiment coupés de leur environnement, de leur milieu, de leur forêt, de leur culture, de leur mode d'alimentation, de leur source d'alimentation, ils ne se retrouvent pas du tout dans les camps de déplacés. Ils ne se retrouvent pas.
Alors, on les estime par milliers, des familles de déplacés à Oicha. Comment les humanitaires aident-ils la RDC à faire face à cette situation? Parce que ce n'est pas seulement Oicha, c'est toute la région est du pays qui fait face à cette problématique des déplacements des populations à cause de l'insécurité.
Il faut même dire que c'est au-delà de l'Est, puisqu'il y a d'autres parties du pays, des crises dont on parle moins parce qu'elles sont plus locales, mais il ne faut pas oublier la crise du Maïdombé qui a aussi entraîné des conséquences humanitaires, à la Tchopo, etc. Il y a d'autres zones de tension. Dans l'Est de la RDC, à cause de la détérioration de la situation, notamment depuis les deux dernières années, il y a une aggravation très nette de la situation humanitaire. Quand on parle de la détérioration de la situation de sécurité, c'est bien sûr la crise du M23, les avancées du M23, qui chaque fois ont comme conséquence des déplacements de population, l'activisme des ADF dans la zone où nous sommes actuellement, avec d'horribles massacres contre les populations civiles. Hier, avant-hier, nous étions en Ituri, donc là, c'est le cycle de représailles, notamment avec l'activisme de la CODECO, etc. Où nous en sommes au jour d'aujourd'hui en termes du nombre de déplacés au Congo, c'est 7,3 millions, voire plus avec les derniers déplacements des combats il y a deux semaines autour de Kanyabayonga. Donc c'est une situation parmi les pires au monde. C'est la plus prolongée du monde.
Concrètement, quels sont les projets des humanitaires dans le but de pouvoir aider ces personnes?
Malgré toutes les contraintes, notamment de financement, ici, les sites qu'on a visités ce matin, des abris en bois, des maisons ont été construites pour les déplacer. Donc ce n'est pas les camps de tente. Les conditions qui sont, par rapport à d'autres sites, qui sont assez bonnes. Toute la question des distributions de nourriture, dont les gens nous ont beaucoup parlé, notamment les peuples autochtones, parce que ça ne correspond pas exactement à la nourriture dont ils ont l'habitude. On a visité des projets très intéressants et là, d'où je vous parle, nous sommes devant un projet d'adduction d'eau avec un forage parce qu'il faut faire attention à ne pas donner l'aide seulement aux déplacés dans les sites de déplacés parce que ça crée des tensions.
En matière de soins de santé primaire.
Soins de santé primaire, on a visité ce matin le projet d'une organisation internationale qui s'appelle Alima. Donc ils ont des cliniques mobiles, une clinique qui bouge chaque jour. Ils couvrent un nouveau site et donc ils travaillent avec le personnel de la zone de santé également qui le supporte. Donc il y a beaucoup de choses qui se fait dans cette zone. C'est jamais assez. Et puis bien sûr, comme tout le monde dit, personne ne veut être dans cette situation. Tout le monde veut retourner cultiver ses champs, manger sa nourriture dont on a l'habitude. Donc c'est la paix et l'appel vraiment de tout le monde aux autorités nationales pour faire ce qu'il faut en termes des dialogues politiques et des actions sur le terrain pour que la paix revienne.
Pourquoi la crise humanitaire en RDC, l'une des deux ou trois pires crises dans le monde, peine-t-elle à toucher le monde? Et on parle des crises oubliées, certains médias en parlent pourtant, mais pourquoi la RDC peine-t-elle à mobiliser la communauté internationale? internationale?
D'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup qui se fait. La communauté internationale est très motivée, très impliquée, mais on parle de chiffres tellement faramineux ici en termes de besoins que bon, c'est difficile à suivre au niveau financier. Il y a aussi la durée de cette crise qui dure depuis 30 ans. Il y a sa complexité, c'est vraiment complexe à comprendre. Ça dure depuis longtemps, il y a d'autres crises dans le monde qui sont plus exposées médiatiquement et de manière géopolitique. La crise en Ukraine, la crise à Gaza, etc. Donc ça prend beaucoup de l'attention médiatique, de l'attention politique, de l'attention en termes d'appui financier. C'est pour ça que nous, on fait tout ce qu'on peut avec le gouvernement pour constamment mettre en exergue cette crise, rappeler que c'est une crise qui ne peut pas être oubliée parce que c'est une crise terrible. Il y a des souffrances incroyables au Congo à cause de tous ces conflits, de tout le mal que font ces conflits, ces groupes armés, etc. Donc vous, les médias, vous avez aussi un grand rôle pour continuer toujours à bien expliquer la crise du Congo.
Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce journal, mis en onde par Polydor Basunga, supervisé et coordonné par Alain Irung Mouchinj et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.